BFM Business, l'info éco.
8h30 sur BFM Business, l'actualité économique, c'est avec Léo Dumas.
Et des échanges de tirs qui se sont multipliés ce week-end entre les États-Unis et l'Iran, les premiers depuis la signature du protocole d'accord, mais les deux parties vont suspendre ce matin ces hostilités. C'est ce que font savoir en tout cas des responsables de l'administration aux États-Unis. Où vous êtes, Elisabeth Guedel?
Les États-Unis et l'Iran vont marquer une pause des hostilités. Après 4 jours d'échanges de tirs et de menaces, Washington et Téhéran se sont entendus pour arrêter les attaques dans le détroit d'Ormuz et laisser libre la circulation des navires commerciaux. C'est en tout cas ce que disent les médias américains ce matin en citant des responsables de l'administration Trump. La dispute sur le contrôle du trafic maritime dans le détroit s'est aggravée durant le week-end. Les forces iraniennes ont lancé des missiles et des drones sur des bases américaines situées au Bahreïn et au Koweït, représailles à des frappes de l'armée américaine sur des sites iraniens. Chacun accuse l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu en premier, donc une trêve fragile, mais selon les Américains, les négociations continuent. Les négociateurs doivent d'ailleurs se retrouver demain au Qatar. Quant aux Américains, ils espèrent que les cours du pétrole vont continuer de baisser, entraîner dans leur sillage les prix des carburants. Ils paient toujours leur essence 30% plus cher qu'avant le début du conflit avec l'Iran.
Merci Elisabeth Guedel. Aux États-Unis, alors que les cours du pétrole ne réagissent pas vraiment à ces événements du week-end, le baril de Brent reste stable à $72 ce matin, 69 pour le WTI.
C'est dans ce contexte que Safran souhaite renforcer son pôle défense.
Le groupe est entré en négociations exclusives pour acheter Exail Technologies, la société franco-belge, l'une des seules au monde capable, par exemple, de déminer le détroit d'Ormuz avec ses drones maritimes chasseurs de mines. Et alors, on est en direct avec Michel Cabirol ce matin. Bonjour, vous écrivez sur latribune.fr « Mariage de raison pour Exail Technologies ». Alors, pourquoi mariage de raison ?
Alors pourquoi mariage de raison ? Parce que finalement le départ du fonds britannique ICG qui avait financé l'acquisition de Xblue lors de la création de Exail Technologies, le départ de ce fonds demande un financement que le groupe Gorgé, en tout cas le groupe familial Gorgé, ne peut pas effectuer seul, et donc il a fallu qu'il trouve un financement, et la moins mauvaise solution pour Exail Technologies, c'est de trouver un partenaire, et ce partenaire c'est Safran, et Safran offre à peu près 128,50 € par action, ce qui valorise le groupe à 2,2 milliards d'euros. Donc c'est vraiment un crève-cœur pour le groupe familial de Gorgé de se séparer d'Exail Technologies, mais il n'y avait pas d'autre possibilité.
Mais Michel, donc si je comprends bien, c'est une réorganisation du capital. On est loin des questions industrielles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée qu'à un moment donné, pour se développer, il faut en arriver là pour monter en cadence industrielle? On sait que le carnet de commandes est plein. Dans ce cas-là, il y a peut-être aussi une perspective industrielle.
C'est le drame des ETI françaises, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de fonds français qui peuvent financer le départ du fonds ICG qui demande à peu près 1,2 milliard. Et ça, c'est juste un grand groupe qui peut financer, qui peut remplacer ICG dans le groupe Exail Technologies. Et donc, ça, c'est un drame. C'est le drame de toute l'économie d'ETI et PME françaises qui ont du mal à se financer par des grands fonds d'investissement français.
Merci beaucoup Michel Cabirol d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. Michel Cabirol de la Tribune.
8h34, il y a une nouvelle menace de droits de douane signée Donald Trump ce week-end. Le président américain qui promet 100% de surtaxe aux Européens qui mettraient en place une imposition des services numériques américains. La Commission européenne se dit prête à réagir rapidement et avec détermination en cas d'exécution. Et puis dans cette quête européenne de souveraineté numérique, c'est Chaps Vision qui tire son épingle du jeu. La start-up française qui a raflé un contrat stratégique au géant américain Palantir pour l'analyse de données à la DGSI, c'est l'enseignement intérieur français. Alors écoutez son CEO Olivier Dellenbach ce matin sur BFM Business.
La France avait un système américain qui donnait satisfaction et qui donne satisfaction, hein, est toujours bien sûr installé là-bas. Donc l'idée, c'était pas de le remplacer par un système moins-disant, bricolé sous prétexte qu'il était français. C'est impossible, surtout sur des enjeux qui sont stratégiques comme le domaine de la sécurité. Donc l'idée, c'était vraiment de voir d'abord s'il était possible de faire émerger un industriel français capable de, entre guillemets, faire le job. Ça a pris du temps, parce que c'est des projets extrêmement complexes. Maintenant, ça prend un peu de temps pour tuiler les deux systèmes, hein, mais on a très grand niveau de confiance sur le fait que notre produit est capable de faire exactement la même chose, même avec éventuellement quelques atouts en plus.
Et puis la Corée du Sud a détaillé ce matin son plan colossal d'investissement dans l'IA, plus de 1000 milliards d'euros sur 10 ans, avec déjà ce premier projet d'un montant de 455 milliards qui comprendra 4 usines de semi-conducteurs, 2 construites par Samsung et 2 autres par son concurrent SK Hynix.
L'actualité internationale vue par la presse, Annalisa Gabellini. Dans les quotidiens internationaux, on parle de la situation au Moyen-Orient, sur le front libanais et sur le front iranien.
Oui, avec un retour au calme qui semble assez fragile des deux côtés. On va commencer par le Liban, où l'accord signé avec Israël est considéré comme contradictoire et impossible à appliquer, selon les mots du président de la Chambre libanaise, Nabi Berri, qui s'est exprimé dans les pages de l'Orient le Jour. Cet accord, il conditionne le retrait des forces israéliennes au désarmement du Hezbollah. Eh bien, cet accord, il ne va pas passer, je cite le président de la Chambre libanaise, parce que selon lui, une majorité de Libanais s'oppose à cet accord. Sur le front iranien, eh bien là aussi, hein, le retour au calme semble fragile. En tout cas, les États-Unis et l'Iran devraient se rencontrer demain pour de nouveau pour parler. Alors, pour la presse israélienne, ça y est, c'est la fin de l'alliance entre les États-Unis et Israël. C'est le journal Haaretz qui le dit. Bah, Benjamin Netanyahou, désormais, n'a plus aucun moyen de pression sur Donald Trump, qui s'engage de plus en plus vers un accord avec l'Iran, qui finalement ne tient pas du tout en compte les intérêts d'Israël sur le nucléaire, ni sur l'arsenal balistique.
La presse internationale qui s'intéresse également à la guerre en Ukraine et les conséquences des frappes sur Kiev qui ont été réalisées par la Russie ce week-end.
Oui, et surtout des frappes qui commencent à affecter les Russes, parce qu'évidemment, les Ukrainiens ripostent aussi. Vladimir Poutine, lui, a essayé en fait de protéger la population russe pendant toutes ces années de guerre. Et bien désormais, selon le Wall Street Journal, l'Ukraine frappe si lourdement la Russie, et en particulier la Crimée annexée, que ça commence à se sentir. Il y a notamment des frappes sur les infrastructures énergétiques qui provoquent et des coupures d'électricité et des difficultés sur l'approvisionnement en essence. Ça bouscule quelque peu les plans de Moscou. D'ailleurs, ces frappes sont à l'origine des représailles russes, notamment sur les Pays-Baltes. Souvenez-vous, on a vu plusieurs drones de l'Ukraine qui se sont écrasés sur le sol des Pays-Baltes à cause des opérations de brouillage de Moscou. Eh bien, c'est un prix acceptable à payer, selon les Estoniens, selon le ministre estonien des Affaires étrangères qui en a parlé au Financial Times. Les frappes de Kiev touchent au point vital de Vladimir Poutine et ne doivent donc pas s'arrêter, selon les Estoniens.
Merci beaucoup, Annalisa Capellini, La Bourse.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Étienne Brasse, ouverture dans 20 minutes, qu'est-ce qu'on attend?
Moins 0,1% à Paris, plus 0,3% pour l'Eurostox 50 en préouverture quand les futurs américains sont très légèrement dans le vert, dans l'attente d'une semaine qui sera particulièrement chargée, hein, que ce soit en termes de banque centrale mais également en termes d'indicateurs. En termes de banque centrale, avec le symposium de Sintra qui s'ouvre aujourd'hui, Christine Lagarde qui n'aura peut-être un peu plus de détails sur la politique monétaire à suivre de la BCE, et puis surtout Kevin Warch, hein, qui sera particulièrement écouté mercredi avant les données de l'emploi vendredi aux États-Unis, les données de l'emploi du mois de mai. D'ailleurs, il n'y aura pas de séance vendredi aux États-Unis puisque ça sera le jour de l'indépendance. Ce matin, une forte baisse sur les deux grands acteurs asiatiques des semi-conducteurs que sont SK Hynix et Samsung. Un peu plus de 5% de baisse pour Samsung, moins 4% pour SK Hynix. Ça vient d'être souligné. 1000 milliards d'investissements pour ces deux acteurs. C'est quand même gigantesque, hein, sur 10 ans afin d'accélérer sur les semi-conducteurs, sur l'IA, sur la robotique. Alors cette nouvelle, elle était attendue, cette baisse de ces deux titres est surtout liée à la baisse des concurrents vendredi à Wall Street. L'indice américain des semi-conducteurs a clôturé sur une baisse de plus de 5%. Le marché s'interroge de plus en plus sur ces fameuses capacités d'investissement et surtout sur comment répercuter ces hausses de prix, sachant que Apple, vous l'avez vu en bourse la semaine dernière, a dévissé après avoir annoncé des hausses de prix de près de 20% sur ses iPads ou encore sur ses Macs.
On va reparler tout ça avec nos experts boursiers, Wilfried Galland de Montpensier Arbevel et Christian Bito de l'ESSEC vont nous rejoindre dans un instant. Vous ne bougez pas, tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h42 sur BFM Business. Notre club de la bourse aujourd'hui, c'est avec Christian Bitteau. Bonjour, professeur. Bonjour. De finance à l'ESSEC. À côté de vous, c'est Wilfried Galland, directeur adjoint de Montpensier Arbevel. Bonjour, Wilfried. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire ce matin. On commence avec quoi, Étienne? On commence avec l'ambiance.
Et les semi-conducteurs. Avec, vous avez vu ce week-end, le FT qui évoque que Apple est en train de faire pression auprès des autorités américaines et surtout auprès de l'administration pour Trump pour dire, s'il vous plaît, laissez-nous acheter des puces CXMT, parce que les puces, on l'a vu, notamment les fameuses mémoires RAM, ont vu leur prix flamber ces dernières semaines avec l'intelligence artificielle, et c'est un marché sur lequel il y a très peu d'acteurs, Samsung, Micron et SK Hynix. CXMT, c'est moins de 10% de part de marché, mais ce serait peut-être l'acteur chinois, bien sûr, qui pourrait venir au secours d'Apple afin d'éviter encore des hausses de prix à l'avenir. Sachant que la semaine dernière, on l'a vu, les Mac ont augmenté de 100-200 dollars, idem sur certains téléphone à venir peut-être au mois de septembre.
C'est la RAMpocalypse, Wilfried.
Oui, en fait, c'est la RAMpocalypse. C'est surtout les interrogations sur le devenir économique des goulets d'étranglement. C'est-à-dire qu'on voit exactement que là, on se retrouve face à des entreprises qui bénéficient d'un goulet d'étranglement. Tout le monde veut des produits qui sont parfois des produits assez basiques, en particulier dans le stockage, alors dans les mémoires, dans le stockage. Ce que fait SanDisk, par exemple, c'est pas des choses d'une technologie extraordinairement avancée, mais vous en avez besoin pour effectivement tout ce que vous devez construire autour de l'intelligence artificielle. Donc la question, c'est qui va gagner économiquement autour de ce point de goulet d'étranglement. Et l'économie, enfin les recherches économiques montrent qu'en fait c'est pas nécessairement ceux qui sont au cœur de ces produits-là qui gagnent in fine. Et donc la question, c'est à quelle vitesse est-ce que l'économie va s'adapter, à quelle vitesse est-ce que les alternatives vont être trouvées, soit comme le dit Étienne, dans ce même secteur, soit dans des diversifications technologiques, dans des diversifications d'approches méthodologiques organisationnelles. Donc ça, c'est effectivement intéressant, et peut-être que ça va forcer quelques hyperscalers, ceux qui véritablement financent en fait tout ce boom autour de l'écosystème tech, à un moment donné, peut-être dès les résultats du deuxième trimestre, à dire on va peut-être stabiliser un peu les investissements, on va pas en faire encore plus, parce que de toute manière, on ne peut plus compte tenu de l'état des chaînes de valeur. Et ça, effectivement, ça va être quelque chose à suivre, parce que tout le monde attend les conséquences de cette annonce qui est inéluctable. On ne sait pas si elle sera ce trimestre ou le trimestre d'après, mais elle est inéluctable.
Christian, c'est pire qu'un goulet d'étranglement. Ça peut être un ralentissement global sur le développement de l'intelligence artificielle.
Non, je pense pas du tout. Bon, là, en ce moment, le marché rame un peu. On peut prendre cette expression.
Remarquable. Ça rame sur les rames,
Parfait. Non, c'est surtout que, en l'absence d'informations géopolitiques, même si ça a failli chauffer sérieusement ce week-end autour du détroit d'Hormuz, il est clair qu'au niveau atteint par les marchés, et surtout dans les secteurs comme la technologie ou la défense, on en parlera peut-être, la moindre toute petite information fait décaler. Apple, c'est une petite information, mais logique. Le prix des mémoires vives va augmenter, le prix de ces produits qui en consomment le plus, notamment les Mac, va augmenter de 15%, je crois, vous l'avez noté tout de même. Ça ne va rien comme augmentation. Je pense que c'est tout de même un micro-problème par rapport au vrai gros problème qui sera peut-être discuté par les banquiers centraux et qu'on commence à voir. C'est l'augmentation générale et mondiale des prix à la production. Parce qu'on se concentre sur les prix à la consommation, les indices CPI ou les indices PCE, ce que va payer le consommateur. Mais dès maintenant, on constate, et c'est le cas depuis déjà 2-3 mois, que les prix à la production augmentent dans tous les pays. On vient d'avoir la semaine dernière les prix à la production industrielle en Espagne, plus 10%. Aux États-Unis, plus 6,5%. En moyenne, en zone euro, plus 4,9%. Donc ça, c'est plus préoccupant, c'est-à-dire la transmission après les prix de l'énergie à d'autres secteurs que commencent déjà les industriels et les grands services à refléter dans leurs tarifs.
Mais aujourd'hui, on ne les voit pas dans les prix à la consommation. Donc du coup, ça veut dire que les entreprises prennent sur leur marge ?
Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire que si les produits semi-finis, par les semi-conducteurs, mais vraiment tout ce qui est strictement industriel, qui n'est pas encore le prix, le tarif affiché en bout de chaîne, commence à augmenter, la vraie préoccupation est là. C'est-à-dire que si le conflit ou la fermeture, soyons plus simples, la fermeture du détroit d'Hormuz se poursuit, plus une tension sur la demande des produits pour la défense, des produits pour l'informatique et pour l'IA, là, on a un risque majeur de propagation, parce qu'on a l'exemple de 2022. 2022, ça avait exactement commencé comme ça. La même hausse des cours du baril de pétrole, puis la propagation dans les prix PPI, et puis ensuite le prolongement.
Oui, mais en 2022, on avait une augmentation très forte de la demande. Bah, là, Wilfried, on n'a pas
fait,
ça.
En fait, l'énorme différence, c'est qu'en 2022, on avait boosté la demande en faisant des chèques à tout le monde. C'est-à-dire qu'on était à la fin de la période Covid, et aux États-Unis, les Américains, jusqu'en 2022, ont reçu des chèques, ont reçu directement des chèques. Et donc, en fait, on a eu un choc d'offres que décrit parfaitement bien Christian, et effectivement ce choc d'offres, il faut le suivre parce que il a des impacts en particulier sur les marges des entreprises. Ça c'est effectivement la capacité d'investir plus tard, c'est pour ça que l'investissement sera très important. Mais en même temps en 2022, on a eu un choc de demande. Et donc on a eu cet effet d'entraînement, choc d'offres, choc de demande. Là aujourd'hui, on n'a pas de choc de demande sauf dans quelques cas très particuliers, par exemple en France où on a des mécanismes d'ajustement qui se mettent en place très vite, mais au niveau de l'économie mondiale, on n'a pas ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas un problème encore à ce stade macroéconomique, il faut le suivre, ce que dit Christian est tout à fait exact, il faut le suivre. Le sujet majeur, il est effectivement sur la capacité des entreprises à maintenir un rythme d'investissement cohérent avec des tensions sur les chaînes de valeur. Et donc, il est probable qu'à un moment donné, on va se retrouver effectivement avec un changement dans la trajectoire de cet investissement. On a parlé de la course au CAPEX, je pense qu'on va avoir très rapidement la course à la rationalité des CAPEX, un peu comme quand Meta, il y a 2 ans, a annoncé que bon, le métaverse, c'était bon, on allait arrêter.
Donc des coupes dans les investissements, on y a.
En tout cas, une stabilisation, et on va d'abord commencer à délivrer les investissements qui ont été annoncés. Pour l'instant, il y a beaucoup de promesses. Quand vous regardez ce qui est effectivement construit aux États-Unis et dans d'autres pays, la construction, ça avance, mais ça avance au rythme où justement les matériaux sont disponibles, les ouvriers sont disponibles, les capacités technologiques, informatiques et électriques sont disponibles. Donc ça prend du temps. Il va falloir remettre peut-être un peu de rationalité et de temporalité différente dans tout ça. Ça, il va falloir le digérer aussi pour les marchés, mais c'est pas forcément un événement négatif.
Le débat qui fait rage sur BFM Business, auquel Étienne prend largement part sur cette question de l'inflation. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle est inflationniste ou désinflationniste? Soit moi sur BFM Business pour s'exciter sur ce type de sujet, mais quand même, ça nous anime très fort. Christian, vous dites-vous, à court terme, c'est inflationniste.
Un petit peu, mais c'est pas l'intelligence artificielle, c'est tout simplement, il y a effectivement un choc sur un excès de demande sur certains composants qui vont du semi-conducteur à la RAM, à la mémoire en ce moment. Voilà, ça c'est très demandé. C'est pas trop grave, ça c'est ce qu'on appelle un pic sur les prix, c'est un peu comme l'énergie. Si le cours du baril de pétrole est monté à 110, qui est le cas, s'il se stabilise à nouveau vers $70 le baril, on n'en parlera plus dans 6 mois, d'accord? C'est si ça dure plus de 6 mois qu'effectivement ça aura un impact, parce que ça aura le temps de se propager. Donc ça serait pas trop grave. Non, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle entraîne des gains de productivité. C'est le pari de Monsieur Kevin Warsh, le nouveau patron de la Federal Reserve. Il l'a dit explicitement, il attend de mesurer ça. Alors, je suis allé fouiller, je pense que tu l'as fait aussi, Wilfried, sur les gains de productivité. Alors, la productivité, en fait, c'est très facile à mesurer, mais comptablement, c'est très long. On mesure tout simplement le PIB d'une économie ou d'un secteur, et on le divise par le nombre d'heures travaillées, soit dans un pays, soit par secteur. Bon, normalement facile. Il faut du temps avant d'avoir le PIB exact. Vous voyez que, par exemple, le PIB américain, ça fait 3 fois qu'il est révisé. D'ailleurs, c'était une bonne nouvelle. Il a été révisé en hausse pour le premier trimestre à plus 2,1%. Bonne nouvelle au passage, tout de même, ce qui explique le soutien des marchés malgré toutes les nouvelles qui font peur. Alors, maintenant, on a le PIB, on a le nombre d'heures travaillées, on va voir les chiffres de l'emploi jeudi, je crois, en fait. Ça tombe jeudi, ce qu'on disait, oui.
Ah bon, c'est bouleversant, ça. Ah oui, c'est parce que c'est fermé.
Vendredi, c'est férié aux États-Unis.
Ah oui, c'est le 4.
Parce que c'est les
Ah, c'est pour ça que tout est jeudi.
J'ai vérifié ce matin sur le calendrier du BLS, mais
bon. Alors. Okay. Il y a un débat.
Gros conflit entre les experts. Alors, donc, quand on fait cette mesure-là, en fait, si on le regarde juste d'un trimestre sur l'autre, c'est assez difficile. Faut regarder une courbe, d'après moi, à long terme. Si on prend une base 100 en 2018, où on a la même base 100 pour la zone euro, en 100 de productivité en 2018 pour la zone euro, on passe à 104 aujourd'hui. Pas de gain de productivité. D'ailleurs, on le sait, c'est-à-dire quasiment pas sur toute cette période, on le sait. Aux États-Unis tout de même, mais c'est pas énorme. Au total, on passe de 100 à 120. sur ce même indice. Donc il y a des gains de productivité, mais on est de l'ordre de 2-3%. Ça s'améliore un peu, mais c'est pas grand-chose. Donc il y a un petit plus aux États-Unis, mais ça n'est pas encore suffisant pour qu'on puisse dire que ça produit effectivement des gains de productivité.
Mais à coup le pas, Wilfried a raison, c'est bien jeudi.
Mais Wilfried a toujours raison. Je sais pas pourquoi vous avez commencé à vouloir argumenter.
C'est anecdotique.
Je me suis trompé de moi. J'ai regardé le calendrier du mois de juin.
C'est totalement anecdotique. Voilà.
C'est pas grave. Le 4 juillet, tout est fermé aux États-Unis. C'est pour ça. Il y aura pas de marché.
Surtout, c'est fermé la veille. En fait, le 4 juillet, effectivement, Étienne avait raison. Le 4 juillet, c'est samedi. Mais en fait, c'est fermé la veille, le 3, en fait. Voilà.
On dit un mot des taux avec Sintra.
Oui, Sintra, début aujourd'hui au Portugal. Hein, chaque année, Christine Lagarde tient
symposium.
Où elle invite tous les grands banquiers centraux. Alors tout le monde sera là, avec bien sûr Kevin Warsh. Donc là, ça sera mercredi où il va participer à une table ronde, bien sûr sur l'intelligence artificielle, hein, parce que c'est vrai, Christian en a parlé. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis surtout un petit peu sur sa politique à venir, puisqu'il a donné quelques éléments là il y a une dizaine de jours lors de sa réunion. Mais le marché est en plein doute là aussi, hein, comme sur de nombreux sujets, dans le sens où en début d'année, le marché pensait que la Fed allait baisser ses taux, puis finalement qu'elle allait laisser ses taux inchangés. Et alors là, quand vous regardez les anticipations, on est clairement sur des hausses de taux, voire même peut-être un peu trop, puisque les estimations, c'est 2 à 3 hausses d'ici à la fin de l'année, avec une estimation plutôt franche, hein, 60-70% dès le mois de septembre.
Et Wilfried Galland ?
Bon, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on ait une hausse de taux dès septembre. Hein.
3 d'ici la fin de l'année, ça serait un peu violent.
Voilà, c'est, je pense que les marchés n'ont toujours pas compris qu'en fait, Kevin Warsh voulait renverser le flux de contraintes. C'est-à-dire qu'il prend les données de marché comme étant des données pour alimenter sa réflexion, mais ce ne sont pas les marchés qui vont lui dire ce que lui doit faire. Il a été très clair là-dessus. Or, en septembre, on va déjà avoir une baisse, toutes choses égales par ailleurs, des chiffres d'inflation parce qu'on a, on a le pétrole qui baisse. Et donc, ça va être l'occasion au minimum de temporiser. En revanche, ce qui va être très important, c'est de voir à Sintra, effectivement, comment est-ce que les débats vont se tourner autour des tendances fondamentales de l'économie. Est-ce qu'on a une tendance fondamentale de l'économie à la désinflation, à la déflation même, ou est-ce qu'on a... Parce qu'on a des changements profonds dans la démographie, parce qu'on a des changements profonds dans la compétition pour l'épargne, est-ce qu'on a cette tendance à la désinflation qui est stabilisée, voire renversée, et on va avoir plus d'inflation? Et je pense qu'il y a vraiment des débats entre les banquiers centraux sur ce sujet-là, qui n'est pas uniquement un sujet technologique, un sujet fondamental. Et puis, comment est-ce que les banquiers centraux doivent adapter leurs outils? Est-ce que les outils de bilan sont toujours des outils qui sont pertinents? Est-ce qu'il faut se reconcentrer sur les outils de taux d'intérêt? Que faire, par exemple, sur la partie de régulation bancaire? Il y a vraiment beaucoup de débats sur quel est le rôle des banquiers centraux là-dessus. Donc on attend, il y a toujours, avant l'été, c'est Sintra, à la fin d'été, c'est Jackson Hole. Et
ça vous fait un été chargé, Wilfried.
Et entre les
bien
deux,
sûr, au milieu,
et entre les
en
deux,
juillet. Il reste 20 secondes, Christian.
Alors je pense que les marchés de taux nous donnent la réponse, tout de même, nous l'a dit, c'est-à-dire que les taux longs ont finalement très peu monté par rapport aux événements depuis le début de l'année. 0,10 de plus
les
pour les taux 10 ans américains, 0,20, 0,30 pour les taux à 10 ans français. Parce que les marchés ont tout de même constater que par rapport à 2022, qui est la dernière phase vraiment restrictive des banques centrales, le dernier crack obligataire, les taux de la BCE étaient à 0, sont passés à 4%. Les taux de la Fed étaient à 0,25, sont passés à 4,5%. Aujourd'hui, la BCE a augmenté de 0,25% ses taux, passe pour le refinancement de 2,15 à 2,40. La Fed le fera peut-être une, peut-être deux fois, mais là, si je rejoins Wilfried, peut-être une fois, mais on est déjà à des taux qui sont proches de 4% aux États-Unis. Donc, il n'y a pas besoin de la même sévérité. Les banques centrales vont agir par principe de précaution. Elles le doivent, puisqu'on voit bien les indicateurs d'inflation montent un peu, mais pas trop. En tout cas, ce que nous disent les marchés obligataires, c'est qu'on peut être rassuré par rapport à cette position.
Merci.
Ça ne sera pas la dramatique hausse des taux de 2022.
Merci beaucoup à tous les deux de venir ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, l'ouverture avec Étienne Brack, Good Morning Business. On se retrouve demain, 6h, 9h. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
8h59, dans un instant, il sera 9h, l'ouverture des marchés européens. Quasiment à l'équilibre en préouverture. Ces grands indices en Europe, du côté de Wall Street.
Nous verrons cela dans un instant. Les futurs américains sont en très légère hausse. Des futurs américains qui se cherchent un petit peu une direction. Nous verrons cela avec Florian Helpo dans une dizaine de minutes. Et pour cause, la semaine est très chargée. Avec, on l'a vu, ces dernières minutes dans le club de la bourse. Eh bien, Kevin Warch qui est attendu au tournant mercredi du côté de Sintra au Portugal. Des données de l'emploi qui ne seront donc pas publiées vendredi puisque c'est férié aux États-Unis. D'ailleurs, il n'y aura pas de cotation. Mais jeudi, exceptionnellement, les données, bien sûr, de l'emploi en ce qui concerne la période du mois de mai. Dans un instant, Léo Dumas reviendra sur tous les derniers événements au Moyen-Orient. Ça a encore beaucoup bougé ce week-end, mais les cours du pétrole ne paniquent pas. Loin de là, 73$ pour le baril de Brent, 70$ pour le WTI. Et puis en début d'émission, avec Alban de la Rétrie, de la financière de l'USES, nous reviendrons sur la hausse spectaculaire de Exail vendredi à la clôture de plus de 25%, avec donc Safran qui a confirmé s'intéresser à ce groupe de la défense. Les secteurs à suivre aujourd'hui, alors que Wall Street a connu une petite baisse sur les indicateurs en ce qui concerne la technologie, la santé, mais également les segments de la défense. Alban de la Rétrie nous expliquera tout dans quelques minutes. En attendant, il est pile 9h et c'est l'information économique du jour qui vous est livrée ce matin par Léo Dumas.
Good morning market, le journal.
Elle a eu un objectif rééquilibrage aujourd'hui. C'est le mandat confié par les 27 à Maroš Šefčovič, le commissaire européen au commerce, qui reçoit son homologue chinois ce soir à Bruxelles dans un contexte d'accroissement continu du déficit commercial de l'Union avec la Chine, imputé par les Européens aux pratiques déloyales de Pékin. Alors Alix Le Bourdon vous rejoint pour BFM Business à Bruxelles. Avant toute mesure défensive, nouvelle tentative de dialogue aujourd'hui donc.
Une réunion attendue comme un moment de vérité pour les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine. Au cœur des discussions, le déficit commercial européen vis-à-vis de Pékin qui a franchi les 360 milliards d'euros l'an dernier et qui continue de se creuser. La Commission européenne prépare un instrument de lutte contre la surcapacité chinoise qui permettrait à l'UE d'imposer de nouveaux droits de douane ainsi que des limites à l'importation. Bruxelles souhaiterait également imposer aux entreprises européennes de diversifier leurs sources d'approvisionnement stratégiques. Problème, les responsables chinois ont annulé plusieurs réunions avec leurs homologues européens qui devaient préparer le terrain pour la réunion d'aujourd'hui, sans compter que les capitales européennes ne sont pas toutes alignées sur la ligne à tenir. Résultat, lors du dernier sommet européen, les chefs d'État et de gouvernement se sont montrés particulièrement prudents dans leurs déclarations concernant la Chine. Tout ça fait craindre qu'une décision sur ces mesures voulues par la Commission européenne soit repoussée à l'automne.
Alix Le Bourdon à Bruxelles, alors que la Chine, elle annonce ce matin l'ajout de 20 entités japonaises sur sa liste noire de contrôle des exportations, leur interdisant ainsi l'accès aux biens chinois à double usage civil et militaire dans un contexte de tensions diplomatiques grandissantes entre Pékin et Tokyo ces derniers mois. Et puis en Corée du Sud, c'est un plan colossal qui a été détaillé ce matin, 1000 milliards de dollars au minimum sur 10 ans dans l'intelligence artificielle, avec des usines de semi-conducteurs et des data centers à la clé. Le premier projet à hauteur de 455 milliards comprendra 4 usines de puces, 2 construites par Samsung et 2 autres par son concurrent SK Hynix.
Et nous reviendrons sur ces annonces en début d'émission. Juste avant, un petit mot des experts que vous retrouvez à 9h30 avec Raphaël Lejean. Quel est le programme tout à l'heure, Raphaël?
Ouais, bonjour Étienne, on va parler canicule, la fin de la canicule heureusement, mais maintenant ce sont les politiques qui se repassent la patate chaude. Alors canicule, à qui la faute? On verra qui n'a pas fait son travail. Et ensuite on parlera de la dette et de ce rapport de la banque, des règlements internationaux qui tirent la sonnette d'alarme. Les fonds spéculatifs arrivent en plus en plus grand nombre sur le marché de la dette publique qui pourrait être le nouveau cœur de la prochaine crise financière. Crise financière toujours, on va revenir sur le crédit privé lui aussi. Est-ce que l'état ciel viendra d'ici depuis plusieurs mois? Les alertes se multiplient. Et puis enfin, on reviendra sur l'euro numérique. Vous savez que le Parlement a adopté l'euro numérique la semaine dernière. L'Europe accélère. Oui, mais à quoi servira-t-il vraiment cet euro numérique et à quel prix pour les banques et notre vie privée? Pour parler de tout ça, j'aurai le plaisir d'accueillir Nathalie Janson, professeur d'économie, François Eckal, fondateur de Fipeco, et Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. À tout à l'heure, 9h30.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 est en très légère baisse ce matin à l'ouverture, moins 0,17% sous les 8400 points, 8369 points. Thales, ST Microélectroniques et Dassault Systèmes sont les trois plus fortes hausses à l'ouverture, alors que à l'inverse, FH, BNP ou Vinci ferment la marche. Une ouverture sans grande tendance ce matin. Le l'Eurostoxx 50 est parfaitement stable, quand le DAX à Francfort grappille 0,1%. Les valeurs à suivre ce matin, Prosus, qui a publié ses publication, ses résultats plutôt. Le résultat opérationnel bondit de près de 80%. Prosus, qui pour rappel est très présent dans le segment technologique, qui a un actionnaire chinois. Le titre gagne un peu plus de 2% ce matin à l'ouverture à la bourse d'Amsterdam à 38,47 €. Ipsen également à suivre avec l'acquisition ce matin dans le secteur pharmaceutique pour le laboratoire français. Une acquisition à près de 500 millions d'euros qui est plutôt bien accueillie dans les première minute de cotation, puisque Ipsen, qui pèse désormais près de 13 milliards de capitalisation, est en hausse de plus de 1% à 164 €. On se retrouve dans un instant, très courte pause avec les équipes d'UZES afin de revenir sur les secteurs à suivre ce matin avec le segment technologique qui domine encore et toujours. Cette nuit, vous avez SK Hynix ou encore Samsung qui ont quand même annoncé un plan de 1000 milliards de dollars d'investissement. Faut-il encore accompagner ce segment technologique après la pause de 5% sur l'indice des semi-conducteurs vendredi à Wall Street? Petite pause quand même par rapport à la hausse spectaculaire de ces dernières semaines, puisque cet indice des semi-conducteurs a quasiment doublé depuis la fin du mois de mars.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
Dans quelques minutes, Florian Helpeau nous accompagnera depuis Genève, depuis Lombardier IM, afin de revenir sur cette semaine chargée qui nous attend sur les marchés, que ce soit avec le symposium de Cintra ou encore avec les données de l'emploi qui seront publiées jeudi. Mais juste avant, on va revenir sur les secteurs, les valeurs qui font l'actualité pour débuter la semaine. Une semaine importante qui s'ouvre une nouvelle fois sur les marchés actions. Et avec nous ce matin par téléphone, Alban de la Rétrie, gérant privé à la financière d'UZES. Bonjour Alban de la Rétrie, merci de nous accompagner ce matin. Dans un instant, vous allez nous partager vos convictions. Peut-être avant quand même un petit tour d'horizon, ce qui se passe sur les marchés. L'indice SOX, donc l'indice des semi-conducteurs, a clôturé sur une baisse de près de 5% vendredi. Ce matin, baisse marquée également pour SK Hynix et pour Samsung, qui ont annoncé quand même 10 000 milliards de dollars d'investissement. Alors, ce sont certes des promesses d'investissement, mais ça montre bien qu'on a des acteurs aujourd'hui dans ce segment des semi-conducteurs qui mettent les bouchées doubles.
Oui, bonjour Étienne. Merci de me recevoir. Alors, effectivement, gros investissement annoncé ce matin en Corée du Sud. En fait, ça suit une logique assez classique dans le secteur des semi-conducteurs. Qui passe très régulièrement, enfin qui est un secteur, vous savez, très cyclique, et qui passe très régulièrement par des zones de pénurie, enfin des moments de pénurie, puis ensuite des moments de très forts investissements avec des énormes capex. C'est ce qu'on voit ce matin donc en Corée du Sud, avec plus de 500 milliards annoncés très rapidement et peut-être 1000 milliards dans les 10 ans qui viennent. C'est ce qu'on voit aussi avec Micron, qui a annoncé des très gros capex aussi. Et en général, tout ça finit par quand même une baisse de prix assez massive, voire une surproduction. Donc c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement depuis de nombreuses années dans ce secteur. Donc nous, on regarde ça bien sûr avec beaucoup de prudence, et on essaye de suivre le mouvement.
Oui, un mouvement qui est quand même difficile à suivre. Je le disais en préambule, l'indice SOX américain des semi-conducteurs gagne toujours 90% depuis la fin du mois de mars. Comment aujourd'hui, en portefeuille, vous êtes gérant privé à la financière d'UZES, Alban de la Rétrie, vous essayez d'être positionné sur ce segment des semi-conducteurs tout en étant diversifié?
Oui, voilà, c'est vrai que pour nos clients, on essaye de, comme je vous disais, de suivre ce mouvement à travers de l'investissement sur Micron, sur ST Micro, même en France ou en Europe ou sur Infineon. Et puis, on suit aussi ce mouvement. Moi, je le suis beaucoup à travers les fournisseurs. Donc ceux qui produisent les machines qui servent à produire les puces. Et ça, il faut savoir qu'en Europe, nous sommes les numéros 1 mondiaux, notamment grâce aux sociétés hollandaises, ASML, ASMI et puis Besi. Voilà. Et donc moi, tous ces capex, vous voyez, qui sont annoncés là, ils vont se traduire dans les carnets de commandes de ces grands fournisseurs internationaux. Et donc, on en profite à travers l'investissement en Europe.
Dans un instant, on aura peut-être l'occasion de revenir sur l'annonce majeure de la séance de vendredi, hein, c'est-à-dire Safran et Xaï Technologique qui sont en discussion. Peut-être avant, un mot sur le segment de la santé qui n'a pas fait grand-chose pendant de longs mois et qui là se réveille enfin, hein, quand vous regardez l'Eurostox 600 Healthcare plus 4% en l'espace d'un mois, plus 7% pour le S&P Healthcare, ça y est, c'est enfin le moment de la santé.
Écoutez, c'est ce que nous croyons. Il n'y a pas que l'IA dans la vie, même si ça truste énormément les marchés en ce moment. Il faut rester diversifié dans un portefeuille pour nos clients, pour apporter de la prudence. On est obligé de rester bien diversifié. Et notamment, le secteur de la santé a atteint des points bas presque jamais vu en termes de price earning depuis la sortie du Covid. En fait, depuis 2022, sortie du Covid, le secteur de la santé a été totalement abandonné, totalement délaissé. Et il nous semble que en diversification, dans le cadre d'une rotation sectorielle, ça peut être intéressant de se repositionner. Et nous, on suit ce secteur, notamment à travers les grandes valeurs suisses, Roche et Novartis, à travers des sociétés belges comme Argenix, UCB, et puis quelques sociétés américaines, Thermo Fisher, Johnson, voilà.
Du côté du segment de la santé, Safran qui a perdu 3% vendredi, perd 0,5% ce matin, avec donc Safran et Xaï qui ont été obligés de confirmer hein, ces informations de Bloomberg qui évoquaient que ces deux groupes discutaient. Xaï qui était en hausse de plus de 25% vendredi, reprend 2,8% ce matin à 120 euros. 330 euros à l'inverse donc pour Safran qui est en baisse de 0,6%. Bon, ça met une nouvelle fois en lumière ce segment de la santé et puis aussi ce segment des small et mid cap, hein, puisque Xaï, c'est un peu plus
de l'aéro, de l'aéro.
Oui, de l'aéro, pardon, l'absus de la défense. et le segment des small et mid cap, puisque Xaï, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros de capitalisation boursière.
Exactement. Dans un autre souci de diversification, on aime bien à la financière du ZES depuis très longtemps le secteur de l'aéronautique qui offre une très forte visibilité puisque vous le savez, dans l'aéronautique civile, les carrés de commandes sont très très pleins. Safran est un leader de la motorisation et profite à plein de ce boom de l'aéronautique civile. Et puis, il y avait un peu le parent pauvre pendant des années qui était la défense et on sait très bien ce qui se passe sur la défense depuis maintenant la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, et puis l'OTAN qui quand même est très fragilisée, avec donc des investissements des États qui se renforcent très fortement dans le secteur de la défense. Et donc tout ça fait que les grandes entreprises veulent se renforcer dans le domaine de la défense, et c'était un point stratégique de Safran qu'ils avaient annoncé. On ne savait pas ce qu'ils allaient faire, bien sûr, mais là, voilà, on a eu vendredi cette annonce sur Xaï, qui est une des pépites hein, du secteur de la défense en France, grand leader sur les drones marins, grand leader sur les centrales inertielles, dans lesquelles Safran a aussi d'ailleurs une activité. Et les centrales inertielles, on n'en parle pas suffisamment, tout le monde connaît Xaï pour les drones. Les centrales inertielles, c'est ce qui permet de se repérer dans l'espace sans GPS et donc qui permet vraiment d'aller contre les brouilleurs. Et ça, c'est de plus en plus utilisé sur tous les appareils, même les drones d'ailleurs. Et c'est ça que Safran, je pense, va chercher dans Xaï.
Merci beaucoup, Alban de la Rétrie nous a accompagné ce matin, gérant privé à la financière de l'USES, pour revenir sur ses dernières grandes actualités sur le marché actions. Le CAC 40 est en très légère baisse ce matin de 0,2% quand l'Eurostock 50 est parfaitement stable. Parfaitement stable, oui, parce que la semaine sera chargée. Et pour nous éclairer ce matin, c'est Florian Helpeau en charge de la macroéconomie chez Lombard Odier IM. Bonjour Florian, merci de prendre quelques minutes ce matin pour
Regardez un petit peu l'agenda de la semaine qui est en effet chargé avec le symposium de Sintra, avec donc les chiffres de l'emploi qui seront publiés aux États-Unis. Ça sera donc vendredi. Et puis dans le même temps, on aura également quelques ISM qui seront publiés du côté des États-Unis. Bon, commençons peut-être par les banques centrales, oui, qui vont prendre la parole, que ce soit la BCE, bien sûr, hein, qui organise ce symposium, et puis également Kevin Warsh, hein, puisque ça sera mercredi que le président de la Fed prendra la parole.
Absolument. Bonjour Étienne, merci de me recevoir. Effectivement, c'est un meeting important. On peut le voir comme, vous savez, au mois d'août, on a ce fameux symposium de Jackson Hole aux États-Unis. Ben, c'est un petit peu son pendant en Europe. Normalement, c'est plutôt un meeting qui est eurocentrique, qui est généralement l'occasion pour la BCE d'en dire davantage sa fonction de réaction, de guider un petit peu hein, les investisseurs, les marchés, les entreprises vis-à-vis de cette politique monétaire. Cette fois-ci, il y a deux éléments qui frappent. Le premier de ces éléments, pardon, c'est la présence de Kevin Warsh. C'est sa première apparition internationale déjà. Ça a le mérite d'être remarquable. Et puis le deuxième élément, c'est de bien avoir en tête que ça va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle la doctrine Warsh, c'est-à-dire Warsh se positionne comme quelque part un apporteur de changement vis-à-vis de la fonction de réaction de la réserve fédérale à l'inflation, l'emploi, la productivité. Le meeting de Sintra a comme thème justement la technologie et la productivité. Kevin Warsh a répété de façon récurrente qu'il attendait cette productivité de devenir une force désinflationniste. Et cette force désinflationniste, c'est elle qui lui permettrait, d'ici quelques mois, de baisser ses taux d'intérêt et donc de donner un petit peu de souffle à l'économie américaine. Donc vous voyez, on devrait en savoir plus sur deux choses. Un, sa façon de voir la politique monétaire dans les prochains mois. Et deux, comment est-ce qu'il appréhende finalement l'IA et le rôle de l'IA dans le rôle qu'ont les banques centrales aujourd'hui dans le contrôle de l'inflation.
Et puis la BCE, peut-être qu'il va éclaircir un petit peu les choses. On se souvient qu'il y a une semaine, lundi dernier, Christine Lagarde était devant la Commission européenne. Elle s'est montrée plutôt prudente hein, sur une éventuelle seconde hausse de taux, dans le sens où elle estimait que pour l'instant, il n'y avait pas de panique sur l'inflation. Oui, le problème, c'est que deux jours plus tard, il y avait Isabelle Schnabel qui a dit non, mais il faut continuer à remonter les taux.
Souvenons-nous toujours que le principal combustible qui fait monter l'inflation, c'est la croissance. S'il y a un endroit sur Terre où la croissance est plutôt en phase d'accélération, ce sont les États-Unis et non pas l'Europe. En Europe, comme en Chine aujourd'hui, les chiffres que l'on reçoit, vous savez, il existe ces indices de surprises économiques. Hein. Les chiffres que l'on lit en ce moment sont plutôt marginalement source de déception plutôt qu'une source de surprises positives comme c'est le cas aux États-Unis. Donc, ce facteur-là devrait jouer à plein et permettre, et éviter en tout cas, que l'inflation énergétique ne devienne de l'inflation pure, c'est-à-dire une élévation globale du niveau des prix. C'est ce qui explique aujourd'hui, quelque part, un peu la dissension, hein, qui semble animer l'Europe autour de la nécessité de monter les taux. Après, monter les taux une fois, deux fois, trois fois, ça n'est pas monter les taux de territoire négatif vers 4%. Hein. On n'en est pas là, on n'est pas en 2022, loin s'en faut. Et on parle vraiment d'ajustement fin de la politique monétaire. Il n'y a pas de quoi faire paniquer les marchés.
Non, à court terme, ce qui interroge un petit peu, c'est le segment technologique. Alors, il faut bien sûr dézoomer, hein, dans le sens où, comme on le disait en préambule, le segment des semi-conducteurs a connu un parcours spectaculaire. Néanmoins, Apple a perdu un peu plus de 6% jeudi après avoir annoncé des hausses de prix. Ce matin, SK Hynix et Samsung annoncent 1000 milliards d'investissements. Alors, ça avait déjà fuité dans la presse vendredi, mais ces deux titres ont également corrigé sur une baisse marquée. Comment vous regardez ces plans d'investissement et puis surtout ces pénuries de mémoire RAM qui se reflètent dans les prix pour les industriels et donc in fine typiquement chez Apple, chez le consommateur?
C'est le grand déséquilibre de l'IA, c'est-à-dire que on a besoin de capacité de calcul, on a besoin de mémoire et on a besoin d'énergie. On a beaucoup investi dans la capacité de calcul. Côté mémoire, on voit des plans d'investissement survenir, mais on comprend aussi que ce sera probablement un goulot d'étranglement, et on ne parle pas encore d'énergie, qui sera potentiellement le prochain goulot d'étranglement du développement de ce narratif IA. Lorsqu'on est face à une révolution, c'est une révolution industrielle. Lorsqu'on est face à une révolution industrielle, l'histoire ne s'écrit pas de façon linéaire, c'est-à-dire que on va avoir en fait des vagues d'investissement, des grappes d'investissement qui vont se succéder pour
pour desserrer des goulots d'étranglement. Mais on parle d'investissement industriel, de capacité physique de production. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent et les marchés aujourd'hui doivent réconcilier aujourd'hui où les choses coûtent, l'investissement a un coût, avec demain où cet investissement sera une source de profit. Donc la question, c'est incroyablement difficile de répondre à une telle question. La question, c'est est-ce que ces investissements sont suffisants pour pouvoir générer les profits qu'on en attend et est-ce que nos anticipations de profits ne sont pas exagérées? Pour l'instant, on ne pense pas que ce soit le cas. Loin s'en faut, dans l'ensemble, on voit plutôt une fonction de réaction rapide de ces grands acteurs de l'IA pour desserrer un à un ces goulots d'étranglement.
Et dans ce contexte, comment aujourd'hui vous allouez les portefeuilles Florian Helpeau chez Lombard-Odier IM, sachant qu'on le voit bien, certes la tech est en hausse, mais tout le monde n'est pas immunisé. Quand vous regardez les Microsoft qui sont sur des plus bas de 2023, Apple, retour à la case départ depuis le début de l'année, et puis cette industrie des semi-conducteurs qui a beaucoup monté, et puis on vient de l'évoquer, qui est désormais en pleine phase de doute.
Oui, absolument. Pour nous, nous n'avons pas une vision négative des marchés, loin s'en faut. On continue d'être surpondéré actions vis-à-vis des obligations. On pense que l'exposition au marché actions est toujours nécessaire à ce stade. Et quand on dit marché actions, on pense à la tech aujourd'hui qui occupe une part importante des allocations globales, mais pas seulement. Vous en parliez précédemment. La santé, par exemple, il y a plein de secteurs aujourd'hui qui n'ont que très peu répondu à l'appel des surprises positives de profits. Au premier et potentiellement deuxième trimestre de cette année. Donc, on pense qu'il y a toujours ce qu'on appelle un investment case. Il y a toujours, si vous voulez, on est toujours dans un environnement qui est propice à la progression des actions. Simplement, cette progression, elle ne peut s'appuyer probablement que sur une progression des profits. Pourquoi ? Parce que les taux réels, les taux d'intérêt sont très élevés. Et quand les taux d'intérêt sont très élevés, ils empêchent ce qu'on appelle l'expansion de multiples, c'est-à-dire le fait que le price-earning ratio des actions se mette à progresser avec les earnings, avec les profits. Donc on ne peut s'appuyer que sur l'amélioration économique globale. Et bonne nouvelle, parce que l'environnement aujourd'hui, il pointe plutôt en ce sens-là. Donc on reste pour le moment positivement positionné sur les actions.
Avec quel secteur aujourd'hui ? En termes de zone géographique également, à quoi ressemblent les portefeuilles, Florian Helpeau?
Les portefeuilles, ils vont pas spécialement chercher de biais géographiques, en fait. Ils vont plutôt refléter une surpondération pour les actions monde. Parce que les actions monde, elles contiennent de la tech, mais pas seulement. Elles contiennent beaucoup d'actions américaines, mais pas seulement. Mais elles contiennent également de l'Europe, du Japon. Elles contiennent un certain nombre de pays également qui ont des chances de voir leurs actions se connaître un momentum positif dans les semaines à venir. Donc, n'oublions pas, on s'approche du début de l'été. Le début de l'été, c'est plutôt une période positive également en termes de momentum action. Disons qu'aujourd'hui, la situation économique ne nécessite pas nécessairement une correction en termes de sentiment. Vous voyez, le risque principal, c'est les taux réels. Mais les taux réels, c'est quelque chose qui met du temps, justement, à impacter négativement les valorisations. Donc, on n'en est pas encore là pour le moment. L'économie doit peut-être même trop bien pour son propre bien.
Merci beaucoup, Florian Helpeau, de nous accompagner ce matin en charge de la macroéconomie chez Lombard-Odier IM. 9h24, le CAC 40 recule de 0,17%. À 8370 points quand l'Eurostock 50 grappille 0,1%, début de semaine dans le calme avant tous les événements que nous venons de signaler à l'instant. Pour décrypter un petit peu la séance en cours, c'est Andrea Tueni qui est avec nous, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour Andrea, c'est vrai que c'est un petit peu poussif mais bonjour. Ça tient malgré les événements de ce week-end. On aurait pu se dire tiens, il y aurait une réaction sur le pétrole, sur les indices actions avec donc ces tirs à nouveau entre Iraniens et Américains. Mais non, une nouvelle fois là, la bourse ne panique pas.
Non, c'est plutôt calme en effet. On a vu même sur la semaine dernière, on a un marché qui est resté globalement flat, malgré le fait qu'il y ait quand même de l'actualité, qu'il se passe des choses, notamment sur la tech la semaine dernière. On a un CAC qui a fini la semaine encore une fois flat, donc sans trop de mouvements, sans trop de changements par rapport à la semaine précédente. Oui, c'est vrai que ce week-end, on a eu une reprise des tirs entre Iraniens et Américains, mais à la fin du week-end, on a eu quand même une confirmation que les deux pays avaient accepté d'arrêter les hostilités et de reprendre les négociations dès demain. Donc du coup, ça, ça a évidemment jeté un soulagement sur les marchés qui ont pu ouvrir quand même sur une note globalement stable, encore une fois, même si on est légèrement en dessous sur le CAC. Donc il y a en effet ce catalyseur géopolitique qui évidemment joue et qui reste un sujet en fil rouge tant qu'on n'a pas la confirmation que voilà, c'est derrière nous. Il y a quand même toujours une prime de risque géopolitique qui se maintient et on continue d'évaluer évidemment l'évolution des cours du pétrole. Mais là, on l'a vu, hein, ils sont revenus, quand on voit le Brent, il est revenu vers les 72,50 dollars le baril. Donc du coup, on est quand même sur plutôt un soulagement et on va dire que cette nouvelle, pour le moment, elle est écartée. Après, il y a des éléments qui vont arriver tout au long de la semaine et qui seront tout aussi importants, notamment la macroéconomie. On a pas mal de chiffres qui vont être publiés aux États-Unis. ISM, rapport sur l'emploi, qui sera d'ailleurs un jour plus tôt, le jeudi, la séance du vendredi étant fermée aux États-Unis pour cause de jours fériés. Et donc du coup, on aura là aussi peut-être une importance un peu plus forte de ces données macroéconomiques, parce qu'on l'a vu avec Kevin Warsh, la forward guidance, elle a été retirée, donc plus de projections sur les taux. Et donc évidemment, tous les chiffres aujourd'hui macroéconomiques auront une importance pour anticiper la politique monétaire à venir de la Fed. Donc ça peut ajouter un peu plus de volatilité qu'on avait un peu perdu sur ces publications macroéconomiques. Et puis il y a aussi le forum de Sintra avec tous les banquiers centraux et dont Kevin Warsh, qui fera partie aussi du forum mercredi, la garde aussi qui sera là et qui s'exprimera tout au long de ce forum et qui pourrait donner des indications aussi sur la politique monétaire de la BCE, même si ces derniers propos ont été plutôt dovish. Le marché continue de pricer avec une probabilité évidemment plus faible une nouvelle hausse de taux de la BCE cette année, et donc on pourra peut-être un peu ajuster ses attentes et voir comment évolue cette paire euro-dollar. Donc il y a encore une fois beaucoup de choses à digérer a priori tout au long de la semaine, même si la séance d'aujourd'hui devrait rester, elle, un petit peu plus calme. Sur le CAC, on a des niveaux qui sont assez bien établis. On a un premier niveau de support, un très très court terme, à 8350. Après, on a un ancien niveau de résistance qui est devenu support vers les 8259 points. Et puis la première zone d'alerte, elle se situe plutôt en dessous des 8100 points sur le CAC. Et puis si on devait reprendre un momentum plus positif, si on devait reprendre le chemin de la hausse sur le CAC, on pourrait aller viser des zones telles que 8450 dans un premier temps et 8500 aussi, qui est une autre zone de résistance à surveiller.
Et l'euro qui retrouve des couleurs face notamment au dollar. L'euro dollar qui retrouve la barre des 1,14 à 1,1407. Merci beaucoup Andrea Tueni, nous a accompagné ce matin, sales trader chez Saxo Bank. Et donc le CAC 40 qui est en très légère baisse. Les futurs américains se cherchent également une direction. Très légère hausse pour l'instant. Tout ça sera bien sûr à confirmer tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse à partir de 15h30. En attendant, dans un instant, vous retrouvez les experts avec Raphaël Legendre. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.